fait. C'est la, d'une certaine manière, c'est la fin de la Torah dans la mesure où Sefer Dvarim, c'est le testament de Moshe Rabbeinu. C'est d'ailleurs un Sefer qui n'a pas exactement le même statut que les autres parties de la Torah. Les drachot qu'on peut faire, etc., ne sont pas exactement les mêmes. Mais bon, on ne va pas entrer là-dedans. Voilà, là, Matot et Massé. Donc d'abord Matot. Alors, Moshe Rabbeinu parle au Bnei Israël, mais il ne leur parle pas directement comme il avait l'habitude. D'ordinaire, c'était marqué Vaydaber Hashem el Moshe, les morts. Hashem parle à Moshe Rabbeinu et il lui dit de parler au Bnei Israël. Et ici, c'est pas tout à fait comme ça. Vous voyez le texte? Quelle est la différence? Ici, le texte dit Hashem parle à Moshe Rabbeinu et il lui dit. C'est toujours Hachem qui parle, bien entendu. Et d'abord, Moshe, El Raché Amatot, l'Ivné Israël, il parle aux chefs de tribu en leur disant Zé Adavar Asher Tziva Hachem. C'est ça la chose qu'Hachem a ordonnée. Donc, bien sûr, Hachem a ordonné et Moshe parle. Mais au lieu de dire Vaïdaber Hachem El Moshe, il dit d'abord, il leur parle, et il parle au chef, et c'est au chef qu'il dit les morts. Les morts, ça veut toujours dire que ce que je te dis, tu dois le répercuter, tu dois le redire à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire ici, les chefs de tribu, mon cher Rabbeinu leur dit, ce que je vais vous dire, je vous parle, et vous êtes en charge de le répéter au reste du peuple. Mais alors maintenant, ce que je vous dis, c'est pas de ma propre initiative, Zé Adama Asher Tziva Hashem, c'est ce qu'Hashem a ordonné. Dire va d'abord Hashem el Moshe, d'abord el Raché Amatot, parle au chef de tribu, va Marta lehem, ish qui idor neder, quelqu'un qui fait un neder, un homme qui fait un neder, etc. Non, mais ça c'est normal. S'il avait dit va d'abord Hashem, Hashem aurait parlé avant de que Moshe leur parle. Le problème, c'était... Évidemment. Seulement, c'est le seul endroit dans toute la Torah où Moshe Rabbeinu parle de cette manière-là et il parle d'abord à quelqu'un d'autre. Il parle d'abord au Raché Amatot.
Pour ceux qui reçoivent, c'est pas transport, c'est dans le sens où ils voient pas...
Sauf que c'est les Raché Amatot qui vont dire « Zéa Dabar Asher Tziva Hashem ». Puisqu'ils vont devoir dire Zéa Dava Shatsiba Hashem. Donc Moshe le dit au Raché Amatot et les Raché Amatot ils vont devoir le répéter. Alors, d'abord, une remarque, le Meshé Chochma il fait remarquer que partout où on dit Zé Adava, ceci est la chose. C'est dit dans les Milouim, dans le Mishkan, et dans la Manne. C'est Mishum chez Enon Noeg le Dorot. C'est toujours en général des choses qui n'ont pas d'impact, enfin n'ont pas d'effet sur les générations ultérieures. C'est quelque chose. En clair, les Milouim, c'est au moment de l'inauguration du Mishkan, c'est local, c'est limité dans le temps. On parle de ça. La manne, c'est limité dans le temps. Le Mishkan aussi, c'est limité dans le temps. C'est toujours des choses qui n'existent pas pour l'éternité. Des choses qui sont limitées dans le temps. Même, par exemple, ce qu'on a dit aux filles de Slofrod, que finalement elle devait se marier avec des gens de la même tribu, c'est seulement elle. Mais quand d'autres filles vont hériter de leur père, elles n'ont pas du tout cette obligation de se marier et de rester dans la tribu. Mais ici, ce Zéa Davar de la Parsha de Nedarim, ici, comment est-ce qu'on va l'expliquer? Alors, il lui dit, Nire, qui veut maaser Zimri, Asiba Haya, Shelon, Esar, Yain, Amoni, Bamidba. Tout a commencé, tout a été possible, parce qu'on n'avait pas encore interdit le vin des Goïms dans le désert. C'est une Xéra qu'on a prise plus tard. Toujours, ce qui était interdit, c'est le vin des libations. Bon, si les goïms avaient utilisé le vin pour le service de leurs idoles, ce vin-là, le vin de messe, disons, aujourd'hui dans notre langage, le vin de messe, il est interdit. Ça, c'est un vrai interdit. Mais Stam Yenam, le vin des goïms, qui n'a pas été fait pour la messe et qui n'a pas été fait pour les idoles, et ça, c'est, ils font du vin, ils ont fait du vin. Pourquoi c'est interdit? Ça, c'est une zéra qu'on a prise et qui à ce moment-là n'existait pas encore. Alors le Meshech Horma il veut dire Mishum Yenam Baou Livnotehem ou le Davaracher. C'est pour ça que une des raisons pour lesquelles on a interdit le vin, c'est à cause des filles d'Egoïm, pour ne pas se marier avec les filles d'Egoïm. Et aussi parce que ça mène aussi à d'autres choses. Après, ils sont arrivés à l'idolâtrie aussi. Et à ce moment-là, ils ne pouvaient pas faire des barrières. Ils auraient dû faire, parce que le vin des goïms, c'est une barrière. Le Midrash, dans Shir HaShirim, il dit que Manayu Israël Menatrin. C'est-à-dire, il y a d'autres qui disent Menaschim, Kol Arbaim Shana Shasu Bamidbar. Le Midrash demande d'où ils avaient du vin, les Bnei Israël. Ils se baladaient avec leur vigne. D'accord, il y avait déjà l'eau, mais le vin, ils ne suivaient pas, il n'y avait pas de rocher sur lequel on frappait ou qui donnait du vin. La Gemara demande avec quoi ils ont fait les libations. La Torah prescrit, les Korbanot, tu dois faire des libations de vin. D'où on avait le vin, demande le Midrash. Le Rabbanan Amrin, Mimashe Ayu, Tagare Goyim, Mochim Laem le Israël. C'est les marchands Goy qui vendaient le vin aux Juifs. Et Tane Rabbi Ishmael, Adain Lonesa Yenam Shel Goyim, les Israël. Parce qu'à ce moment-là, le vin des Goyim n'était pas encore interdit aux Juifs. Donc c'est du vin goy, avec du vin goy qu'on faisait les libations dans le désert. Donc ils ne pouvaient pas faire une xéra sur le vin des goyim, parce que sinon ils ne pouvaient pas faire les. Si on avait fait une xéra, on n'aurait pas pu faire les libations. D'accord? Donc on avait un problème. Donc lui veut dire, comme Velachen Amar, le Raché Amatot. Pour ça, il s'adresse au chef de tribu, qui yiru she yasu si yagim, ou ndarin ndavot le bilti le vli lishtot yain, kede shelo yavo mirchol mise. Il s'adresse au chef, et vous êtes responsable qu'il n'en vienne pas à faire des vœux concernant le vin, parce que on a déjà donné, quoi. On a déjà eu l'histoire avec, avant Pinchas, donc. Il dit, vous êtes des chefs, mais Zimri, c'était un de vos collègues. Ça lui est arrivé. Chez Kinal Shifto, ou bah, le Mashaïra, il est arrivé. Ce qui est arrivé avec Zimri. Vainyan Muskal Benachon, il dit, c'est clair que on comprend bien pourquoi cette paracha de Nedarim, elle est donnée ici comme Ohatcha, c'est-à-dire une décision qui n'est que momentanée, comme on l'a vu, parce que Zéa Davar, ça veut dire que c'est momentané, parce que dès le moment où il y aura déjà des siagim, on va interdire le vin des goyim, alors on n'aura plus, on n'aura plus besoin de, en quelque sorte, de cette paracha, dite de cette façon-là, en tout cas. Dibourze, aya, naot, le raché, amatot, le ayen, bezé. Il était nécessaire que les chefs de tribu s'occupent de cela, pour les raisons qu'on a dites. Et juste à ce moment-là. Après, c'est plus nécessaire. Shadayin mutar laem, yain, degoim, le tsorke, gavoa. Parce qu'on avait besoin pour faire les corbanotes. Velachen, yevchar, le asro, kalil. On ne pouvait pas donc entièrement l'interdire. Comme ensuite, on l'a fait. Dans Shabbat, il dit une chose qu'on a été gozer, Aliad Ben Gurion. Là-bas, on a interdit toutes sortes de choses, y compris le vin d'Egoïm. Mais c'est beaucoup plus tard. Ils interdisaient le Kodesh, Potéach, Petach, le Shimush, l'Onachon, Beyaïn, le Tsonke, Ediot. Parce que le fait d'utiliser ce genre de vin pour des corbanotes a ouvert une porte à l'utilisation abusive de ce vin dans des questions purement profanes, évidemment. Avec toutes les conditions, les conséquences. Non, pourquoi les gens ils buvaient de vin? Dans le désert, après, on ne buvait pas d'eau, c'est pas seulement Capitaine Haddock, il n'y avait jamais d'eau, je pense. Parce que l'eau n'était pas potable, a priori. L'eau était souvent pas potable. Donc le vin, je pense qu'on mettait de l'eau dans le vin, parce que le vin était beaucoup trop fort, parce qu'il ne maîtrisait pas il ne savait pas arrêter la fermentation. C'est ça le problème du vin dans l'Antiquité. Il était beaucoup trop fort, puisqu'il ne pouvait pas arrêter. Donc on le coupait avec de l'eau. Et on le coupait, les Romains, ils coupaient leur vin, ils le coupaient avec de l'eau de mer. Bon, c'est-à-dire aujourd'hui, tu t'imagines, couper avec de l'eau de mer. Mais j'ai entendu que à Oran, il y avait la source d'eau, c'était de l'eau saumâtre. Et quand ils ont introduit l'eau douce à Oran, les vieux, ils mettaient du sel dans leur café. Parce qu'ils ne pouvaient pas boire le café avec l'eau douce. Il fallait retrouver le goût de du café. Non, mais le Beth-Amigdash, une fois que les Bnei Israël étaient en Eretz Israël, ils ont planté les vignes. À ce moment-là, ils avaient leur vin, ils n'avaient plus besoin d'acheter le vin des Goïm. Mais ils sont dans le désert. La Gemara dans Shabbat, elle raconte qu'ils n'ont pas tout de suite, mais au d'un certain temps, ils se sont réunis, ils ont mis 18, ils ont décidé de 18 xérotes. Et parmi elles, il y avait celle-là. Non. C'est égal. Le problème des libations, on ne pouvait pas l'interdire, c'est seulement dans le désert, parce que dans le désert, on n'avait pas de vin. Il fallait faire des libations. Les seuls qui pouvaient, comme dit le Midrash, les seuls qui pouvaient livrer du vin, c'était les marchands goy. On va savoir s'ils n'avaient pas récolté ce vin sous les statues sur lesquelles on versait de. On va savoir. Mais on ne le savait pas, il ne le savait pas. Non, mais il y avait aussi le vin pour boire. Le vin à boire, il l'était aussi. Non, je pense qu'il n'y en aurait quand même pas eu assez. Je veux dire, s'ils vendaient du vin les marchands, ce n'était pas que pour les juifs. Ils vendaient du vin parce que tout le monde buvait du vin. C'est un vin, je dis très très fort, et on voit très bien dans la Gemara quand elle discute de combien on peut couper un vin. Alors, il coupait le 1 contre 6. Une portion de vin et 6 portions d'eau. Parce que c'était tellement fort que c'était imbuvable. Le vin de l'Antiquité était imbuvable.
C'est le sirop. Le sirop, c'est le même rapport.
d'après ça, hein, la paracha a été dite Rashi Hamatot parce que tout est arrivé à cause d'un des Rashi Hamatot de Zimri. Bon, ça c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est la chose, enfin, c'est une remarque qui vient en fait du Sfat Emet. Le Sfat Emet dans la parasha de Pinchas, ben, regardez, vous avez un texte, regardez dans Pinchas, au début de la parasha, vous avez quelques psukim concernant Pinchas, et tout de suite au premier chapitre de Pinchas, au verset 16, il avait Hachem el Moshe les morts, Tzchor et Amidianim, Vikit et Motam, harcèle les Midianim, et vous les frapperez, Kitzor Rimhem Lachem, ce qu'ils vous ont harcelé, Benichleyem, avec le complot qu'ils ont ourdi contre vous, Hacher Niklou Lachem, Alvar Peor, dans l'histoire de Baal Peor, Alvar Kosvi Bat Nesi Midian, et aussi avec l'histoire de Cosby, la fille du prince de Midian. Cosby, c'était la fille de Balak. Achota, Amuka, Beyom Amagefa, Alvar Peor, qui a été frappé le jour du fléau sur le problème, au sujet du problème de, à cause de Baal Peor. Oui. C'était? Non, un Midianite. Parce que le problème, c'est comme ça que. Ce qui t'a induit en erreur, c'est que Balak, il est le roi de Moab, mais lui, c'est un Midianite. C'est-à-dire que les Moabites, quand ils ont vu arriver les Bnei Israël, ils avaient une telle peur, parce qu'ils avaient pensé, vous avez dit, on en avait parlé, ils ont pensé qu'ils étaient protégés par Sihon et par des royaumes très puissants. Quand ils ont vu que ces royaumes-là avaient été complètement balayés par les Bnei Israël, ils ont paniqué complètement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des recherches pour savoir d'où vient le chef des Bnei Israël qui les dirige de façon tellement extraordinaire. Alors, il a appris qu'il avait passé à Midian. Donc ils ont envoyé des gens à Midian pour faire une enquête sur quelle est la force de ce Moshe. On a dit c'est la force de la parole, et c'est pour ça qu'ils sont allés chercher quelqu'un qui était censé avoir une force dans sa parole, à savoir le camarade Bilam. Et du coup, comme ils ont demandé conseil et que les Midianites en savaient plus qu'eux, Balak, il est devenu roi. Bien qu'il soit Midianite, il est devenu roi de Moab. Mais c'est un Midianite. La question, c'est pourquoi on frappe les Midianites et pas les Moabites? Les princesses, il y en avait des Midianites, il y a aussi des Moabites. Pourquoi on ne les frappe pas, les Moabites? Moab, on n'a pas le droit de les frapper. Parce que Moab, c'est les descendants de Lot. Et Lot, il a sauvé Abraham en le dénonçant pas quand il était en Égypte. Quand Abraham a dit que Sarah était sa sœur, Lot, s'il avait dit un mot, il aurait été couvert de cadeaux par les Égyptiens. Et on aurait tué Abraham. Mais il n'a rien dit. Donc il s'est acquis un mérite. Et le mérite, c'est que ces deux filles, bien qu'elles ont dû, après le rapport incestueux avec lui, mais bon, on peut imaginer qu'elles ne savaient pas ce qui se passait, elles pensaient qu'elles étaient les seules survivantes. Et alors, Moab et Amon, on n'a pas le droit de leur faire la guerre. C'est pour ça que ce n'est pas eux qu'on frappe. Et en plus que les Midianim, ils se sont mêlés d'un problème qui ne les regardait pas. Eux, ils n'étaient pas concernés. Les Bnei Israël, ils ne passaient pas dans leur territoire. Donc, ils sont venus faire la guerre aux Bnei Israël. Enfin, la guerre, oui. Aux Bnei Israël, alors qu'on ne les avait pas touchés. Ils n'avaient même pas peur, eux. Ils n'étaient pas sur la trajectoire des Bnei Israël. Mais ce qui est frappant, c'est la chose suivante. C'est que, il y a ces quelques mots, là, concernant Midian. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il y a? Le recensement. D'accord? On n'en dit pas plus. Tout de suite après, c'est le recensement. Alors que chez nous, ici, dans Matot, juste après la paracha des Nedarim, c'est-à-dire au chapitre 31, verset, premier verset. Et d'abord Hachem el Moshe les morts, ne comme Nikmat Bene Israël, mais est à Midianim, venge la vengeance des Bene Israël contre les Midianim, et ensuite tu mourras, et puis il y a toute la description de la guerre et du partage du butin, etc. On en parle. Alors, à quoi ça a servi d'en parler à la parasha de Pinchas? Pinchas, on dit, il faut les harceler, etc., il faut les frapper. Il y a une parasha dans Matot, attends une parasha, et dans Matot, c'est écrit dans long, large et en travers. Alors, le Sfas-Emes, il dit la chose suivante. Il dit qu'en réalité, dans parasha de Pinchas, il s'agit d'un tournant radical dans l'histoire du clan d'Israël. Jusqu'à présent, la guerre, par exemple, les guerres que les Bnei Israël ont faites, dans ces guerres-là, les Bnei Israël étaient extrêmement passifs. C'est Hachem qui faisait la guerre. Ils étaient sur le terrain, mais bon, Hachem faisait tout. Et à partir de ce moment-là, à partir de Parshat Pinchas, Hachem, tout change. Hachem leur dit à la limite, maintenant vous allez faire une guerre, mais cette guerre-là, il faut que vous y prépariez dans votre tête. Il faut que vous en veniez à haïr les Midianites pour ce qu'ils vous ont fait. Et que cette haine débouche sur aller leur faire la guerre. Prendre une vengeance, se venger. Alors bien sûr que Hachem va faire réussir la guerre. Mais il faut qu'ils aient faut qu'ils soient actifs. Il faut qu'ils veuillent faire la guerre. Et donc, le petit morceau dans Pinchas, c'est commencer à vous travailler contre les Midianites. Et tout est comme ça. Aaron à Cohen, il est devenu Cohen, pas par son mérite. Il est devenu Cohen parce qu'Hachem l'a désigné comme Cohen. Et les fils d'Aaron, les deux fils qui sont devenus Cohanim en même temps, ils sont devenus Kohanim parce que Hachem les a désignés. Et là, tout à coup, maintenant, arrive Pinchas, qui lui devient Kohen, mais qui l'a mérité. Le Midrash Rabba sur Pinchas, il dit « Vedin hu shi'itol sharo ». C'est comme ça qu'il commence. C'est normal que Pinchas reçoive sa récompense. Savoir la Kehuna. C'est un sra. Donc c'est nouveau. Un homme qui reçoit quelque chose qui normalement être octroyé sans qu'on ait fait quoi que ce soit, ou même pas de mérite en réalité, c'est donné, maintenant c'est fini, maintenant il faut le garder, il faut le gagner. Et c'est pour ça que tout de suite après, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, maintenant tu vas mourir. Parce qu'on n'a plus besoin de toi maintenant. On est dans un autre monde, on entre dans une autre phase. Une phase dans laquelle les hommes vont devoir se débrouiller. Hachem va les aider, bien sûr, mais il faudra se débrouiller tout seul. Quand ils vont entrer en Eretz Israël, ils vont devoir semer, labourer, etc., et faire tout ça, comme les goïm. Ensuite, il va falloir reconnaître que tout ce qu'ils ont, c'est grâce à Hachem. C'est le grand problème des rois, et de Chizkiyahou, qui n'est pas devenu Mashiach parce qu'il n'a pas chanté, parce que maintenant c'est fini, on ne peut pas devenir Mashiach si on ne l'a pas vraiment mérité. On n'est plus dans ce cas-là. Alors c'est à l'époque de Pinchas, on voit arriver quelque chose, il y a un changement là qui se fait jour radical. C'est une autre époque. C'est pour ça que, par exemple, Yoshua, avant la tirade de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu l'a convoqué, Yoshua, il lui a dit, voilà, je vais mourir, pose-moi toutes les questions que tu as. Tu ne pourras plus les poser, je vais mourir. Alors Yoshua, il lui a répondu, mais Moshe, mon maître, tu as écrit dans la Torah que je n'ai jamais quitté le Beth Amidrash. Donc je n'ai pas de questions, j'étais tout le temps là. J'ai tout entendu, j'ai aucune question. C'est même difficile à lire une chose pareille, mais bon, c'est ce qu'il a dit. après la ptira de Moshe Rabbeinu, Yoshua, il a oublié 3000 halakhot. Alors, les Bnei Israël lui ont dit, demandez à Hachem. Il a demandé à Hachem, Hachem dit, c'est fini maintenant. C'est fini. La Torah, elle est close avec Moshe Rabbeinu. Cette époque où on avait la halakha dite directement par Hachem, elle est révolue. Je te dis plus rien. Tu ne peux pas me demander, je te dis pas. C'est marqué que les Bnei Israël, quand ils ont entendu ça, ils voulaient lapider Yoshua. J'ai oublié 3000 à la côte. Alors, comme vous savez, c'est Othniel ben Kenaz qui a récupéré ces halakhot par son pilpoul, c'est-à-dire, il a reconstruit toutes les halakhot qui manquaient. Donc ça veut dire que le système de la Torah n'est pas minimal, si vous voulez. S'il était minimal, alors s'il manque un morceau, tu ne peux plus reconstituer ce morceau manquant. Mais quand ce n'est pas minimal, c'est alors qu'il y a des redondances. Donc grâce à ces redondances, on va pouvoir reconstituer. D'accord, c'est une espèce de, aujourd'hui on dit, plasticité du cerveau. C'est, le cerveau, il est capable de, s'il y a quelque chose d'abîmé, il est capable de reconstruire, d'inventer un nouveau chemin qui pour compenser ce qui ne fonctionne plus. Ça ne fait pas toujours, puisqu'il y a des gens qui... Tout le monde ne guérit pas comme ça, mais ça s'est fait partie de la plasticité du cerveau. Là aussi, le texte lui-même, il est suffisamment plastique, si on veut, d'accord, pour que, enfin, que les hommes, c'est pas n'importe qui, c'est Othniel, mais que les hommes puissent reconstituer un morceau manquant, 3000 halakhot manquantes, à partir de halakhot restantes. Donc, vous voyez, c'est Yoshua, il n'a plus la possibilité d'aller directement. C'est les hommes qui doivent faire le travail. Et ça, c'est Torah Shebal Peh, en réalité. On est entré dans la période de Torah Shebal Peh. Et là, on voit ici que, effectivement, qu'est-ce qu'on leur dit? Faites des barrières. Donc, les vœux, ici, ils sont présentés comme des barrières. Pourquoi vous? Des barrières à cause du vin, là. Parce que, ce sont des barrières. Quand il y avait un cas, quand la Torah elle décrit la procédure de la sota, nous on ne veut pas qu'elle boive. Parce que si elle est fautive, elle va mourir. Or elle ne mérite pas de mourir puisqu'il n'y a pas de témoin. Supposez qu'elle ait été adultère. Elle n'est pas passible de mort, il n'y avait pas de témoin. Donc on ne veut pas qu'elle meure. Qu'elle divorce, bon, elle va divorcer, elle perdra sa ktouba, c'est une question d'argent, on ne meurt pas, c'est une question d'argent, puis elle peut refaire sa vie, terminée. On ne veut pas qu'elle s'entête à boire quand même, aller jusqu'au bout de la procédure et risquer sa peau, si ce n'est pas nécessaire, je veux dire. Alors pour la fatiguer, on la balade un peu partout et on lui dit. Biti arbe yainose. Peut-être que tu t'es laissé entraîner parce que tu as bu. En état de légèreté, la légèreté donnée par le vin, alors tu t'es laissé entraîner. Ok, c'est pas grave. Dis, t'as pas besoin de dire que tu as fauté. T'as qu'à dire que tu as peur de la procédure. La procédure était un peu effrayante. Dis que tu as peur. Tu suffit de dire. La femme, si elle dit « je ne veux pas boire », elle ne boit pas. Il faut qu'elle le dise avant qu'on ait effacé le Shem Hashem. Il y a toute une procédure jusque-là, avant qu'on efface le nom d'Hashem dans l'eau. Vous connaissez, non? La procédure de la sota. Jusque-là, on fait tout ce qu'on peut pour qu'elle dise « bon, tant pis, je vais pas jusqu'au bout et je divorce ». Ils sont obligés de divorcer. Donc là aussi, yain, c'est le vin. Le vin est considéré comme, aujourd'hui, le vin, la drogue, les alcools, etc. Les gens sont amenés à faire toutes sortes de bêtises quand ils sont en état d'ébriété, ou un peu cool. Donc les nédarim ne se comportent pas que sur le vin, évidemment. Mais Pourquoi on vous dit à vous? Parce que vous savez ce qui est arrivé à votre collègue, et donc veillez à ce que ça n'arrive pas. C'est-à-dire veillez à ce qu'ils ne prennent pas non plus des. Qu'ils ne fassent pas des vœux incontrôlés, etc. Bon. Ceci étant, toute la notion de vœux est une notion très surprenante. Mais le chidouche dans la paracha, elle commence pas à parler des vœux, elle parle pas des vœux. Qu'est-ce qu'elle dit, la paracha? Bon, elle parle au raché à Matot, et qu'on dit Ish ki idor neder. Si un homme fait un vœu, l'Hachem, ou Ishava Shvoa, ou s'il fait un serment, pour s'interdire quelque chose, il faut qu'il ne profane pas sa parole, et il doit faire tout ce à quoi il s'est engagé. Bon, alors ça c'est le principe. Là on pourrait presque dire, c'est un peu trivial, c'est assez normal qu'on doive tenir sa parole. On peut se demander pourquoi on a besoin d'un verset pour nous dire qu'on doit tenir sa parole. Peut-être c'est simplement l'entrée en matière. Mais tout de suite, de quoi on parle? Veisha qui tidor neder l'Hashem, veasra isar bevet avia, binurea, veshama avia et nidra, veesara, asher asra al nafsha, veherish la avia, vekamo kon nedarea, vecholisa asher asra al nafsha, yakum. Veimeni avia ota, veyom shamo, kon nedarea, veesarea, asher asra al nafsha, lo yakum. Veashem islach la, ki eni avia ota. De quoi on parle? La première halakha réelle de, c'est quoi? C'est que si une jeune fille dans la maison de son père, une mineure, elle est dans la maison de son père et elle fait un vœu, et que son père juge que ce vœu-là, il dérange le fonctionnement de la maison, il peut l'annuler. Mais il doit l'annuler le jour où il l'a entendu. C'est-à-dire, pas obligatoirement le jour où elle l'a dit, parce qu'il n'était peut-être pas là, mais le jour où il apprend qu'elle a fait un vœu, il doit s'il veut, il peut l'annuler. S'il ne fait rien, pendant toute cette journée-là, le vœu tient. Donc, de quoi on parle? On parle de la possibilité d'annuler les vœux, justement. On a juste dit qu'il y avait une notion de vœu, mais le sujet, c'est l'annulation des vœux. Parce qu'après, on dit que si maintenant cette femme elle est mariée et qu'elle fait un vœu, alors c'est son mari qui aura la possibilité d'annuler le vœu le jour où il l'entendra, s'il pense que le vœu qu'elle a fait est un vœu qui empêche le fonctionnement harmonieux de la maison. Pardon? Non, alors. Non, parce que c'est lui qui est responsable de la maison, et le père est responsable de sa fille. Maintenant, elle, si elle veut annuler son vœu, elle, d'elle-même, une femme qui veut annuler un vœu, elle a, comme les hommes, elle a la possibilité d'annuler son vœu aussi, mais pour ce faire, il faut aller chez un chacham, ou bien chez trois juges, et il faut trouver ce qu'on appelle un pétach. Il faut trouver une ouverture dans le vœu. C'est-à-dire, on va chercher à dire la chose suivante. Par exemple, quelqu'un qui aurait fait un vœu qu'il ne mangera pas de... Qu'est-ce qu'on peut faire comme vœu idiot? Il s'interdit de boire du lait. C'est un vœu par lequel il s'interdit de boire du lait. Puis un jour, le médecin dit que, écoutez, vous devez boire du lait. C'est pas picouard nefèche, il n'est pas à l'article de la mort s'il ne boit pas, mais pour sa santé, il faut qu'il boive du lait. Alors il va voir le chacham, le sage, ou bien les trois juges, et il va lui dire, voilà, écoutez, quand j'ai fait mon vœu, je n'ai pas pensé que je voulais que ce vœu tienne, même dans l'hypothèse où pour ma santé, il faut que je boive du lait. Donc, quelque part, à cela, je ne me suis jamais engagé, en réalité. Alors, le sage ou l'expert ou les rachamim, ils vont regarder si ce qu'il raconte tient debout. S'il tient debout, si ça tient debout, ils lui diront moutarlach, moutarlach, moutarlach. Trois fois, c'est moutard, c'est-à-dire on annule ton vœu. Tu peux boire du lait. Ça, c'est un homme ou une femme. Et ça, c'est, il faut. Ça, c'est pas un père ou un mari, il ne peut pas le faire. Le père ou le mari, il a un jour pour empêcher que le vœu soit validé. S'il ne peut pas faire ça sur n'importe quoi, s'il pense que ça met en jeu l'harmonie de la maison. Alors, c'est ça la question, la Gemara, elle dit, mais ça tient sur quoi, ça? C'est pour air bavir, ça flotte dans l'air, il n'y a pas de psukim, il n'y a pas de verset. C'est comme ça, le verset, la Torah dit, c'est comme ça. Mais on n'explique pas pourquoi, quel pouvoir, etc. Mais c'est comme ça, ça fait partie des halakhot, des nedarim, des vœux. Alors on explique qu'en réalité, la raison pour laquelle il faut qu'un vœu puisse être annulé, ça vient de ce que Hachem avait juré, fait serment de détruire les Bnei Israël. Après le veau d'or, ici aussi dans l'histoire de la semaine dernière, etc. Et Moshe Rabbeinu, il est entré en lice là-dedans, il a commencé à parler pour les Bnei Israël, pour essayer de les sauver, etc. Et finalement, Hachem lui-même, il a annulé son vœu. Donc, quelque part, l'existence du clan Israël, elle dépend de la possibilité d'annuler un vœu. Si Hachem n'annule pas ce vœu-là, on n'existe plus. Donc il faut que, sur ce même modèle, il faut qu'on puisse annuler un vœu. Pas dans n'importe quelle condition. Hachem, il a dit, Salarti kidvarecha, j'ai pardonné comme tu l'as demandé. Alors, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, dans le texte, c'est marqué pour la femme chez son père ou pour la femme chez son mari, c'est marqué que Hachem Islachla, Hachem lui pardonnera. Ce qui a pardonné. Pourquoi il faut pardonner? Est-ce qu'elle a fait de mal? C'est que, en réalité, ce qui va se passer avec cette femme à laquelle on a annulé son vœu. Mais elle avait voulu ce vœu, donc quelque part, c'est vrai que juridiquement, si on veut, elle n'est plus astreinte. Mais d'une certaine manière, maintenant, elle va boire du lait, ou elle va faire ce qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas faire, ou ne pas faire ce qu'elle voulait, avait dit qu'elle voulait faire. Alors, c'est permis parce que son mari ou son père l'a annulé. Mais elle, quelque part, Hachem Islachla, que finalement, elle se tient pas à ce qu'elle a dit. L'entrée en matière, c'était quand même, il faut tenir sa parole. D'accord? Toute chose qui a été prononcée engage. Alors c'est vrai qu'on peut annuler, mais la personne qui l'a prononcée, elle est engagée quand même.
Surtout qu'elle peut être frustrée du fait que le mari ou le père, dans le cas, l'ait interdit,
annulé son vœu.
Elle a toujours envie de le faire.
Elle a peut-être envie de le faire, etc. Mais alors, mais la question c'est comme ça. Disons que, je sais pas, disons qu'elle avait fait un vœu qu'elle allait manger 5 fruits dans la journée. Là, oui. Et son mari lui a interdit. Il a annulé le vœu. Alors, quand il n'est pas là, est-ce que elle peut manger 5 fruits, qu'elle doit manger 5 fruits, c'est évident, mais est-ce qu'elle peut manger 5 fruits au titre de « c'est ce que je voulais faire quand même » ou bien non, ça n'a pas de sens. Ça n'est pas tenir sa parole. Est-ce que vraiment le mari ou le père, il a annulé la parole? Parce qu'il y a une grande différence entre l'annulation par un chacham par un sage ou bien ou des dayanim que je vous ai décrite, Rachel, la notion de on a un pétard, on ouvre, etc. Et l'annulation par le père ou le mari. C'est que quand le père ou le mari annule le vœu n'est comme s'il n'avait jamais existé. Tandis que quand on va chez le chez le sage pour annuler le vœu il est annulé depuis désormais jusqu'à dorénavant. Mais il n'y a pas lieu d'arracher le vœu. Jusqu'alors, le type il peut très bien avoir vécu 50 ans avec son vœu, et puis tout à coup il arrive quelque chose avec ses petits-enfants ou ses arrière-petits-enfants, et maintenant il veut annuler le vœu parce que voilà. D'accord ? Mais il n'est pas du tout, il veut pas du tout, il regrette pas ce qu'il a fait, et il n'a pas de raison de le regretter. Il y a eu un événement nouveau qui fait que maintenant il y a une porte qui s'est ouverte, et il est obligé de franchir la porte, et la porte, il faut passer, faire le contraire de ce qu'il avait décidé de faire avec son vœu. Donc c'est pas la même chose. Dans un cas, on arrache complètement le vœu, comme s'il n'avait jamais existé. Dans l'autre cas, à partir de maintenant, le vœu est le vœu n'engage plus. Désormais, tu n'es pas obligé de te plier au vœu. Vous avez une situation analogue, par exemple. Dans un guet, dans un acte de divorce. L'acte de divorce, il n'annule pas les kiddushin qu'il y avait eu. C'est-à-dire, un homme et une femme se sont mariés, ils sont restés mariés 20 ans, et maintenant ils divorcent. Ça n'annule pas le mariage. Depuis désormais, ils ne sont plus mariés. C'est tout. Mais ce qui s'est fait avant, ils étaient mariés. Ils ont vécu 20 ans mariés, maintenant ils ne sont plus mariés. Par contre, si par exemple on s'aperçoit que, même après 20 ans, on s'aperçoit qu'un des témoins du mariage n'était pas cachère. Ou bien on s'aperçoit que, éventuellement, le mari, la bague qu'il a donnée, elle ne lui appartenait pas. C'est pas sa bague. Son papa, il lui a dit, tiens, voilà. Et lui, il ne lui a pas vraiment donné. Il en a besoin pour ça, alors voilà. Mais il n'y a pas de kinyan, il n'a pas acquis. A priori, ils ne sont pas mariés. Il n'a rien donné à la kala. Il ne lui a rien donné. Si on ne lui a rien donné, on n'est pas marié. Donc là, le mariage, il sera annulé depuis le début. Même s'ils ont vécu 20 ans, mariés, très bien, bon, ils ont vécu, c'est très bien. Mais maintenant, il s'avère que s'ils veulent continuer, il faut qu'ils refassent un mariage.
Et les enfants, ils deviennent
mamzerim? Non. D'abord, des enfants, ils ne deviennent pas mamzerim si on n'est pas marié.
Non,
ils ne sont pas mariés. C'est des enfants naturels. Disons qu'ils sont nés hors mariage, mais on est cachère. Il n'y a pas de mamzer. Mamzer, c'est seulement si c'est la résultante d'un inceste ou d'un adultère de la femme. C'est pour ça que, dans certains cas, pour éviter la mamzerut, on cherche à annuler rétroactivement le mariage. Si par exemple, une femme a été adultère, disons par exemple, elle s'est mariée, et puis ensuite, prenons un cas de figure, voilà, elle a cru que son mari était mort. Elle s'est remariée. On lui a permis de se remarier. Maintenant, le mari, il arrive. C'est des cas qui sont arrivés au moment de la guerre. On a considéré que certaines personnes étaient mortes. Il y avait des témoignages, parce que pour éviter que la femme soit agouna, qu'elle reste sans mari, et qu'elle ne puisse pas se remarier, parce que on n'est pas sûr que le mari est mort et elle n'a pas reçu l'acte de divorce, qui sont les deux seuls moyens pour qu'une femme sorte du mariage dans lequel elle était, alors on... Bon, alors disons qu'on ait trouvé un, témoignages de goy, on ajoute toutes sortes de choses pour permettre à la femme de sortir de cette situation insupportable. Et disons qu'elle s'est remariée. Et maintenant, le mari se pointe. Voilà, il était prisonnier, maintenant on l'a libéré. Voilà, il s'est pointé. Le mur de Berlin est tombé et il a pu passer en Occident. Et voilà, il est là. Alors, si on peut faire en sorte que le premier mariage, on trouve que dans le premier mariage, il y avait, je ne sais pas, un des témoins qui était un proche parent, suffisamment proche, ou du Khatan ou de la Kala. Un des témoins. Souvent, on doit mettre les gens en garde, parce que souvent, les gens qui ne savent pas, ils disent « Ah, mon tonton, ce sera lui le témoin, le tonton machin, mais si. » Si le tonton machin est témoin, t'es pas marié. Alors, il vaut mieux pas que ce soit le tonton machin qui soit le témoin. Les gens, ils s'imaginent que donner du kavod, tu donnes du kavod à quelqu'un qui fasse une bracha, bon, ça va très bien, mais les témoins, c'est le truc sur lequel il faut pas donner de kavod de ce genre-là, quoi, parce que ça fait tout tomber, et on n'est plus marié. Alors, si on arrive à montrer que le tonton machin, c'est lui qui était témoin, hop, la femme n'est plus mariée, et donc les enfants ne sont pas des mêmes héritiers.
Alors,
pardon ?
Avec le deuxième.
Oui, les enfants qu'elle a eus avec le deuxième, ils sont cachers. Parce qu'elle n'a jamais été mariée avec le premier, donc elle n'avait pas besoin d'acte de divorce, parce qu'elle s'est mariée avec le deuxième, ou mariée ou pas d'ailleurs, elle a vécu avec le deuxième, elle a eu un enfant avec le deuxième, et l'enfant est cachère. C'est pas le même ça. C'est clair ? Donc on voit très bien, il y a des cas où on est intéressé à arracher, à déraciner la chose, il y a des fois où, non, c'est pas, on n'a pas déraciné, c'est, désormais on n'en a plus besoin de cette chose-là, on veut vivre autrement. C'est la même chose ici dans les témoignages, dans les vœux, selon que ce sont le père ou le mari qui arrache le vœu ou le beddin ou le chacham qui permet moutarlach, c'est permis maintenant. Donc d'après ça, ça voudrait dire que si la femme, quand on lui a arraché le vœu, elle voudrait quand même le faire, ça n'a aucun sens. Parce qu'il n'existe plus son vœu. Mais malgré tout, la Torah, elle dit Hachem Islachla. Hachem lui... Alors, en général, on utilise cette situation-là pour décrire pour la raison suivante. Parce qu'on peut avoir la situation suivante. Le mari, quand il a entendu qu'elle a fait un vœu, il lui a annulé le vœu. Mais elle ne le sait pas. Quelqu'un a dit au mari, tu sais, ta fille, au père ou au mari, tu sais, ta fille ou ta femme, elle a fait ce vœu-là. Ah, il dit, je l'annule. J'annule ce vœu. Mais elle ne le sait pas. Et maintenant, elle, disons qu'elle transgresse son vœu. D'accord ? Elle avait décidé, elle a fait un vœu qu'elle ne mangerait pas les pommes vertes, et maintenant elle mange une pomme verte. Alors, formellement, il ne s'est rien passé, elle n'a rien transgressé, puisque le mari l'avait arraché le vœu depuis le moment où elle l'a fait. Il n'y a jamais eu de vœu. Mais là-bas, c'est marqué Hachem Islachla. Là, il faut quand même qu'Hachem lui pardonne, parce que c'est vrai que formellement, elle n'a pas transgressé, mais dans sa tête, elle a transgressé, parce qu'elle ne savait pas. Ça, cette chose-là, quand on ne sait pas les choses, mais... Bon, c'est toujours un grand problème, c'est le fameux problème de... à l'envers. On a déjà parlé, c'est un problème qu'on pose en général avec... l'histoire de David et Bathsheba. Vous connaissez l'histoire. Que, en fait, la question c'est la suivante. Supposez que vous avez un voisin qui vous casse les pieds. Vous voudriez le tuer. Voilà, c'est une occasion favorable. Il tombe malade. Et il faut lui donner à manger, il faut lui faire à manger, il peut manger un peu de soupe alors. Alors vous vous portez volontaire, vous allez acheter un peu d'arsenic, et vous faites une très bonne soupe avec un peu d'arsenic, un peu beaucoup d'arsenic. Et vous lui donnez à la cuillère, mange ta soupe, camarade, hop, il mange toute la soupe jusqu'au bout. Et il ne meurt pas. Manque de peau. Pourquoi ? Le pharmacien s'est trompé, il vous a donné du bicarbonate au lieu d'arsenic. Est-ce que vous êtes un assassin ou pas ?
On a une intention.
Bon, attention, mais est-ce qu'on est un assassin avec ça ? Il n'y a pas de cadavre, c'est vrai, on n'a tué personne, mais tout le travail intérieur, on l'a fait pour pouvoir assassiner. Tout ce qu'il fallait surmonter pour être capable d'assassiner quelqu'un, bon, on l'a fait. Et c'est ça le problème de David. David, il s'avère que Bathsheba était permise. D'accord ? Mais lui, il ne le savait pas quand il l'a prise. Donc lui, il a fait tchouva toute sa vie. Mais nous qui savons la vérité, nous n'avons pas le droit de dire que Bathsheba, que David a fauté. Non, d'abord, il n'a pas fait assassiner son mari. Non, mais ce n'était pas tout à fait comme ça. C'est pas comme ça. David, en fait, c'est plus compliqué que ça. David, quand il a vu qu'elle était enceinte, il a voulu faire passer l'enfant comme être l'enfant de son mari. Donc il lui dit, il était au front, il lui dit, viens, va rentrer ta femme. Il a donné une permission spéciale. Et il voulait qu'il aille chez sa femme, qu'il ait des rapports avec sa femme, et qu'on puisse penser que l'enfant, il vient de son mari. Mais Uri, il ne voulait pas. Il a dit, moi, je ne vais pas prendre du plaisir avec ma femme alors que mes copains, ils sont au front et qu'ils sont en train de faire la guerre et risquent leur peau. Il ne voulait pas. David a dit, je veux que tu... Alors, il l'a obligé d'aller chez sa femme. Il a dormi sur le paillasson. Il n'a pas couché avec sa femme. Il n'est pas rentré chez lui. Mais, ce faisant, il a désobéi au roi. Il s'appelle Mored Bemalchut. Et celui qui désobéit au roi, il est passible de mort. Et donc, ce que David a fait, c'est qu'au lieu de le tuer, il aurait pu le tuer. Parce que désobéir au roi, c'est... Le roi peut te tuer. Mais au lieu de le tuer, David l'a mis en première ligne au front. Il a, en quelque sorte, c'est comme si il avait décidé que... Bon, on va voir ce qu'Hachem décide. En fait. Donc, en fait, c'est Uri qui a sauvé David. Parce que si Uri était rentré, alors le guet que Uri avait donné en partant... il aurait été annulé. Donc la femme était interdite, donc il aurait eu un rapport avec une femme mariée et non divorcée. Mais comme Uri n'est pas rentré, et dans le guet qu'il donnait, c'était « si je ne suis pas rentré d'ici telle et telle date, alors depuis aujourd'hui tu es divorcé », de facto, David, quand il a pris Bathsheba, il ne le savait pas, mais elle était divorcée, puisque Uri n'est pas rentré. C'était ça le tenaille des guerriers de David. Quand ils partaient en guerre, pour éviter que les femmes soient dans une situation où on ne sait pas si le mari est prisonnier, etc. Alors le mari lui donnait un guet. Alors, on ne peut pas donner un guet quand on est mort. Donc le guet, il part du moment où il le lui donne. Mais c'est un guet al tenaille, un guet sous condition. Il lui dit, si je ne suis pas revenu d'ici 6 mois... tu es divorcé depuis aujourd'hui. C'est ça qu'il donnait. Mais ça, c'est seulement s'il n'est pas revenu. Mais s'il était rentré chez lui, donc ça aurait annulé la condition. Il est rentré avant, donc elle n'est pas divorcée. S'il était rentré comme David le voulait, donc Bathsheba n'aurait pas été divorcée. Mais du fait qu'il n'est pas rentré, qu'il a désobéi à David, et qu'il n'est pas rentré, alors elle est divorcée. Puisqu'elle est divorcée, donc lui, il a eu un rapport avec une femme qui était divorcée. Mais lui, il ne le savait pas. Donc il a fait tchouva toute sa vie pour avoir eu un rapport avec une femme mariée. Non, mais il ne le savait pas quand il le savait pas quand il a eu un rapport avec elle. Il ne savait pas que Uri ne rentrait pas. À ce moment-là.
Alors pourquoi il l'a mis au premier.
Non, alors après il l'a mis, il n'est pas rentré, il l'a envoyé parce qu'il était mort de malchoute. Mais parce qu'il ne voulait pas. Oui, parce qu'il voulait prendre Bathsheba. Il voulait se marier avec elle. Il fallait que son mari meure. Mais il n'était pas sûr, il ne l'a pas tué directement. Et en tant que roi, il aurait pu le tuer. Mais c'est comme s'il s'en était remis à Hachem, on va voir ce qu'Hachem veut. Si Hachem fait qu'il revient de la guerre, bon, elle ne sera pas pour moi ou je ne sais pas quoi.
La désobéissance que je vous dis, la désobéissance au roi, c'était que David l'entendait, c'était d'avoir dit non, je ne rentre pas à la maison, ou alors c'était.
Non, ne pas être rentré.
Donc il savait qu'il n'était pas rentré.
Après, il a su, il a fait une enquête, il a su qu'il n'était pas rentré.
Donc,
mais maintenant, il ne savait pas. Mais sur le moment, et pendant longtemps, il a pensé que. Bon, il n'est pas rendu. Je ne sais pas s'il n'est pas rendu compte, mais tout se passe. Ça a l'air de l'extérieur. Bon, je ne sais pas, c'est David Améler, je ne sais pas ce qu'on peut dire là-dessus. En théorie, officiellement, il ne s'est rien passé. Mais le travail intérieur, il était là. C'est quand même le travail intérieur, c'est. Bon, ça c'est.
Alors quel est le statut
de.
Donc celui qui
veut le tuer. Il n'est pas un assassin. Enfin, il faut qu'il fasse un petit examen de conscience quand même. Alors ensuite, il y a ce long paragraphe, enfin ce long sujet, un chapitre en fait, sur la guerre contre Midian, et le pourquoi de la guerre à cause de Bilam, etc. Et puis ensuite, le problème du butin. Donc, et on nous donne le détail comme si c'était. C'est même très difficile de comprendre qu'est-ce qu'on a à faire de du détail du butin. Qu'est-ce que ça veut bien me faire? Combien il y avait je sais pas, d'assiettes, de cuillères, qu'est-ce que j'ai, ou de bols, je ne sais pas. Et combien il y avait de bœufs et du coup, ensuite il vient une nouvelle grosse affaire, en fait. Chapitre 32. On a du mal ici à reconnaître les tribus. Bon, c'est vrai que c'est pas ceux qui sont sortis d'Égypte, etc. Mais voilà, les Bnei Gad et les Bnei Rouven, ils ont des grands troupeaux. Alors, quand on arrive, ils arrivent avant le Jourdain et ils voient que les terres avant le Jourdain sont des terres à pâturage. Alors ils disent, ben nous on veut ça, nous on veut s'établir ici. On ne va pas passer le Jourdain. Enfin, ils n'ont pas dit qu'ils ne passeraient pas, mais on ne veut pas s'établir de l'autre côté du Jourdain. On va rester de ce côté-là du Jourdain parce que les terres là sont des terres à pâturage et nous on a des troupeaux. Donc c'est formidable, c'est exactement ce que nous voulons. Donc ils sont allés chez Moshe. Et ils lui ont dit, si on a trouvé grâce à tes yeux, etc., donne-nous cette terre-là. Alors d'abord, mon cher abbé nous l'a très très mal pris, parce qu'il leur a dit, comment c'est possible, quoi. Vos frères vont aller faire la guerre de l'autre côté, et vous êtes là à planquer, à paître vos troupeaux. Donc vous êtes en train d'essayer de détourner le cœur des Bnei Israël, de traverser vers la terre qu'Hachem leur a donnée. En fait, c'est exactement ce qu'ont fait les. Vous êtes de nouveaux explorateurs, quoi. Vous êtes en train de décourager les gens. Donc, c'est marqué, la colère d'Hachem s'est enflammée ce jour-là, et il a fait un serment, on est dans les serments, là. Si jamais ces hommes qui sont montés d'Égypte de l'âge de 20 ans et plus voient la terre que j'ai jurée à Abraham, Yitzhak et Yaakov, etc., ils n'ont pas été entiers vers moi, excepté Caleb et Yoshua bin Nun. Donc ça, c'est ce qu'Hachem a dit contre les explorateurs. Et donc ici aussi, Hachem leur dit, voilà, vous êtes levés à la place de vos pères, engeance de pécheurs, pour ajouter encore au courroux d'Hachem contre Israël, car si vous vous détournez de lui, il continuera à laisser les Israël dans le désert, et vous détruisez tout ce peuple. Alors ils ont dit, non, il y a mal donne. Nous, on va simplement construire des enclos pour le bétail, des villes pour nos enfants, et ensuite, on prend nos armes, et on marchera à la tête des Israël pour aller conquérir la terre. On va franchir le Jourdain, avec tout le monde, pour faire la guerre. Et quand on aura gagné la guerre, et quand chacun aura trouvé sa terre, on retournera chez nous. Pardon ?
C'est ça qui est
terrible, en fait, me semble-t-il terrible. Mais Moshe Rabbeinu dit, enfin, au nom d'Hachem, mais c'est ok, d'accord. Donc il a donné des ordres à Elazar, à Cohen, à Yoshua bin Nun, au chef des pères des tribus d'Israël. Il leur dit, si les Bnei Gad et les Bnei Reuven y font ce qu'ils ont dit, alors vous leur donnerez ces terres-là, puisque lui, il ne sera plus là quand on va partager la terre. Donc voilà, on leur a donné ça. Et moi, la vérité, je n'ai jamais compris. Jamais compris parce que la terre d'Israël, c'est-à-dire l'autre côté du Jourdain, devait être partagée entre les différentes tribus, les 12 tribus, disons. Et évidemment qu'on allait donner à chaque tribu la partie d'Eretz Israël sur laquelle il allait pouvoir s'épanouir en fonction. Chaque tribu avait ses caractéristiques. Naphtali, on lui a donné des rivages. Zvouloun, pardon, on lui a donné des rivages parce que c'est un pêcheur, c'est un navigateur, etc. Donc on lui a donné des tribus, enfin des territoires qui étaient au bord de la mer. On n'allait pas lui donner des territoires du côté de la montagne. Si lui... Donc on a donné à chacun des territoires qui lui correspondaient. Donc, mais dans le plan d'Hachem, la terre, elle devait être partagée en 12. Donc maintenant, elle ne sera plus partagée qu'en 10. Peut-être même en 9,5, puisqu'il y a une demi-tribu de Menaché qui est avec Gad et Reuven. Donc plus personne n'est à sa place. Donc plus personne n'est à l'endroit qui est le plus favorable pour que la tribu puisse s'épanouir. Alors, à la limite, est-ce qu'on... Comment on a pu accepter ça, je veux dire? Comment Hachem a accepté, en quelque sorte? Alors évidemment, on peut toujours dire, Hachem, en fonction de ce que font les hommes, justement, il rebat les cartes, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose que Hachem ne veut pas, que ne voulait pas qu'on fasse, quelque part, si on se fait du mal, on se fait du mal à soi. Mais le projet d'Hachem, il va se réaliser quand même, de toute façon. Donc Hachem, ok, alors vous allez faire un petit détour supplémentaire dans l'histoire, puis on arrivera quand même là où je veux que vous arriviez. Bon, alors, à ce moment-là... Mais, en fait, au fond de moi-même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on les ait laissés faire. Je ne comprends pas non plus qu'ils aient eu la chutzpah de dire, ben, nous, on va s'établir ici parce qu'il y a des pâturages. Et on est allé en Eretz Israël à cause des pâturages. Bien sûr que la terre est Eretz Zavat Chalav Udvash, etc. Bien sûr qu'on veut pouvoir en vivre, cette terre. Mais dire on passe pas le Jourdain à cause des pâturages.
Ce qui pouvait faire Rachid, c'est bien qu'ils avaient plus de pitié pour leur que pour leurs enfants.
Oui. Parce qu'ils ont dit d'abord on va trouver des enclos pour nous. On fait des enclos pour le bétail, puis après on construira des villes pour nos enfants. C'est les tribus d'Israël. Je ne sais pas répondre. La question que vous n'avez pas posée, mais Je ne sais pas répondre. Bien sûr, ils ont probablement relevé ça, mais visiblement, ça ne les a pas dérangés comme ça me dérange moi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, ça veut dire.